J'ai réfléchi totalement ce qui
s'est passé. Moi, j'ai essayé de compagnie au placement. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, la vie de mes présidents, trouver une solution par rapport à ça.
Bienvenue à Parole aux auditeurs. Aujourd'hui, c'est le 5 septembre. Le monde célèbre la journée des enseignants. Une journée pour rendre hommage aux enseignants et au rôle essentiel qu'ils jouent pour une éducation de qualité à tous les niveaux. Enseigner ne signifie pas uniquement apprendre à l'apprenant une série d'essais et des nombres. C'est inspirer, libérer le potentiel de l'apprenant, lui offrir de nouvelles perspectives. Enseigner, c'est l'aider à concrétiser ses rêves. La question que va lancer notre émission, que représente pour vous la fonction enseignante? Monsieur Urbain Marie Moussi, ancien chef d'équipe division à l'EPSP, notre invité. Titi Poutou, Nicole Ngaka et Guy Manzambou réalisent cette émission. Marie-Chantal Mouba est à la présentation.
Radio établie, la radio de la paix en route vers les élections. Retrouvez tous les jours, questions à la CENI et les élections plus faciles à comprendre. Une occasion pour vous d'adresser vos questions à la Commission électorale nationale indépendante par SMS au 081 006 57 10 au 081 006 57 10 ou par mail à elections@radiooctapi.net.
L'enseignant au centre de notre émission, si vous voulez participer, le 081 890 63 15, nous écrire à l'adresse internet pa@radiocapi.net. Notre invité est là. Bonjour, monsieur Moupi.
Bonjour, madame.
Comme je vous ai présenté tantôt, vous êtes un ancien chef de sous-division à l'EPSP, donc un provette, comme on l'appelle actuellement. Vous avez été secrétaire général à la recherche scientifique, professeur de lycée, collège. Dites-nous, que représente pour vous cette fonction d'enseignant?
Merci, vous remercie d'abord de votre présence. Vous montrez pour intervenir sur les antennes de la radio de Capou. En ce qui concerne la profession enseignante, je pense que depuis le temps, on a considéré cette fonction comme étant une fonction noble. C'est ce qu'on a appelé autrement beau métier. Et ça relève des œuvres de l'esprit. Notre enseignant, il faut avoir l'art, c'est vrai, il faut apprendre hein, à l'école normale. Devenir enseignant, ce n'est pas donné à tout le monde, c'est une vocation. C'est une vocation.
Donc pour vous, être enseignant, c'est une profession noble, c'est une vocation. Nous allons parler aujourd'hui avec nos auditeurs. Restez en ligne parce que après les avis des auditeurs, nous allons revenir à vous pour pouvoir commenter les avis des auditeurs. Il y a déjà Justin qui se trouve à Béniquier en ligne et aussi bien sûr d'autres auditeurs qui veulent participer à cette émission. Je rappelle les contacts 081 890 63 15, vous nous écrivez à travers pa@radiookapi.net. Justin, bonjour.
Bonjour madame et bonjour à l'invité.
Dites-nous pour vous, que représente cette profession?
En fait, je suis aussi de cette profession, je suis enseignant en fait de l'Institut Kanga Mbembeli. Ça fait 3 ans que je suis venu de dispenser cours à cette école. En fait, l'enseignement, c'est une fonction noble qui demande une récompense de la part du gouvernement congolais. Des choses qui n'est pas faite pour notre gouvernement, parce que souvent je dis que selon le syndicat des enseignants, on a dit que les enseignants seront vêtus aujourd'hui en noir pour témoigner noir, déjà la couleur noire, témoigne la tristesse, pour dire que les enseignants ne sont pas payés. Si j'étais ici le cas de mon école, ça fait 5 ans que l'école est mécanisée avec certains corps professionnels, mais jusque là, il n'y a pas l'argent qui vient du ministère de l'enseignement. Avec ça, pour dire que nous traversons le calvaire sur l'enseignement.
Mais comment s'appelle votre école?
Mon école s'appelle l'Institut Kanga Indi.
L'Institut Kanga, et ça fait 3, ça fait 5 ans, vous dites?
5 ans que l'école est mécanisée avec les enseignants, mais nous avons les numéros qui sont là, ils ne ressortent rien absolument.
Mais vous déplorez cette situation, mais quand même vous aimez la profession parce que déjà en 3 ans, parce ouais. que vous n'avez jamais été payé, mais vous résistez, vous continuez à donner cours aux enfants.
La professeure est vraiment noble parce que même si le ministre qui a appris de vous l'éduquer, il parle le français parce qu'il est passé par les mains des enseignants, par mes collègues enseignants, pour dire que même le président de la République, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est grâce à l'enseignement, pour dire que l'enseignement devrait avoir une récompense supérieure par rapport à notre fonction.
Merci beaucoup. Et une petite question juste avant de partir, avant de vous donner le temps de faire autre chose. Est-ce que vous n'êtes pas des fois tenté à quitter cette profession?
Non, je n'ai pas tenté parce que j'ai fait 3 ans des humanités, j'ai été formé en pédagogie. On m'a dit comment gérer l'enseignement. Je croyais qu'il y a toujours des difficultés, mais nous faisons le mieux possible pour gérer ça. C'est une bonne fonction vraiment, sauf qui n'a pas de récompense.
Merci beaucoup, et bon courage dans le métier que vous avez choisi, un métier noble. Soupi, vous êtes à Kalima, bonjour. Soupi, bonjour.
Oui, bonjour Marie-Chantal, bonjour à tous les auditeurs. Merci beaucoup de m'avoir participé aussi à cette émission. Hier, j'étais emporté par la connexion. J'ai dit, l'enseignement, c'est une bonne fonction, c'est une bonne chose de faire, d'avoir initié les enfants, les cours, les matières, comment est-ce que les pays se positionnent, comment est-ce que la personne peut vivre avec d'autres personnes. Mais je regrette une seule chose. Certains enseignants commencent à gaspiller le temps pour rien en faisant et en montrant, en disant des nuisances aux enfants. Par exemple, si vous avez des personnes dans votre ville, les riches et les pauvres, des paroles comme ça, des choses comme ça, gaspillant seulement l'air. Mais j'ai une question à soulever à notre invité. La question est de savoir pourquoi seulement les enseignants de notre parti de Kalima, ils ne veulent pas toucher l'argent du gouvernement, mais ils sont contents seulement de l'argent des parents.
Voilà, un peu ma question. Vous voulez savoir pourquoi?
Parce que je vois ici chez nous, si les gouvernements paient, les gouvernements paient au par rapport aux parents, certains enseignants ne suivent pas les coûts correctement. Ils commencent à gagner les heures. Si les enfants s'absentent seulement un jour, là, ils profitent à questionner ou à faire des interrogations. Ils veulent seulement que les parents puissent payer par rapport au gouvernement.
Donc, vous avez l'impression, c'est pas lié au fait que l'argent qu'ils reçoivent du gouvernement est assez bas et que ceux qui reçoivent des parents est un montant assez élevé.
Non, Marie-Chantal, parce que le gouvernement les donne 50 000 francs par mois. Mais précédemment, il recevait seulement ou il touchait seulement 30 000 francs au parents. Mais je vois pour moi que 50 000 francs est au-delà de ce que les parents ils donnaient. Mais moi, je regrette seulement, ils veulent toucher seulement l'argent des parents au lieu du gouvernement. Pourquoi cela est fait? Voilà, je dis encore une fois, je vous remercie.
Merci, Soupi, vous vous posez des questions, mais aussi vous avez constaté qu'il y a certains enseignants qui ne donnent pas correctement cours, donc la qualité de l'enseignement a un peu baissé en vous écoutant. Merci. Théodore, vous êtes à Kananga, bonjour.
Bonjour, bonjour, maman Marie-Chantal.
Nous vous écoutons. Que représente pour vous cette fonction?
Merci beaucoup. Je suis enseignant, mais au niveau supérieur.
Mm-hmm.
J'ai été enseignant au secondaire. Et quand je finissais la sixième année de pédagogie, j'ai enseigné au primaire. Donc, j'ai vraiment traversé cette carrière jusqu'à aujourd'hui où je suis au niveau supérieur. Je vous donne plus la situation socio-économique des enseignants dans la vie des camps en Lokasa occidental. En fait, vous savez que l'enseignement comme tel, c'est ça même la base de toute la construction d'une vie d'un individu. Mais les conditions dans lesquelles nous nous retrouvons, ce sont des conditions qui découragent. Lorsque vous prenez, je crois, il y a quelques jours, j'avais posé la question au ministre de l'enseignement primaire secondaire qui était studio, s'il pouvait nous donner les salaires de base ou les salaires d'un enseignant de l'école primaire secondaire. Malheureusement, il a esquivé cette question, n'a pas donné. C'est pour vous dire que les conditions socio-économiques des enseignants, les conditions sociales des enseignants, que ce soit au niveau primaire, au niveau secondaire, même au niveau supérieur universitaire, ce sont des conditions très très désagréables et inhumaines. Lorsque vous prenez aujourd'hui les enseignants de l'école primaire et secondaire, même nous aussi les enseignants de supérieur, il y a aussi la contribution des parents. On nous donne encore la prime en dépit de ce que le gouvernement fait. C'est comme un supplément. C'est parce que l'État, qui devrait nous prendre en charge totalement, ne le fait pas. Je me dis, un enseignant de l'école primaire qui se met debout de 8h ou de 7h30 jusqu'à 12h45. Et il termine, on lui demande d'aller préparer la leçon pour revenir demain matin faire le même exercice. Et à la fin du mois, on donne à ce monsieur-là 40 000 francs. Ce que les parents donnent, que les parents considèrent comme s'ils nous prennent en charge, c'est à la fin du mois, on donne peut-être 10 000 francs ou 8 000 francs, ça dépend des écoles. Et en moyenne, il a peut-être 60 000 francs. Tout un mois. Cet enseignant a des enfants qui doivent faire aussi instruire et étudier. Donc, vous comprenez le dilemme. Moi, je crois qu'il y a un problème de responsabilité de l'État. Un enseignant doit être pris en considération et on doit améliorer ses conditions de vie. En plus, les conditions de travail, les conditions professionnelles. Quand vous voyez dans nos classes, dans nos auditoires, vous pouvez vous dire réellement si réellement on peut assurer une bonne instruction. Si vous prenez l'université, c'est pléthore. Si vous prenez au niveau primaire aujourd'hui dans nos écoles, les effectifs sont au-delà de 50-60 devant un enseignant affamé. Donc on ne peut rien aujourd'hui espérer de l'enseignement, que ce soit au niveau primaire, secondaire ou...
Mais s'il vous plaît, Théodore, la fois dernière, lorsque le ministre était avec nous dans Parole aux auditeurs, il a soulevé, et vous l'avez reconnu, quand même la situation a évolué. 10 ans avant ou bien 5 ans avant, c'était pas le cas, mais vous pensez que c'est toujours insuffisant le salaire des enseignants. Mais lorsque vous dites que la situation n'est pas reluisante, est-ce qu'on ne peut pas espérer pour cette fonction des lendemains meilleurs?
En fait, je vous renvoie au rapport de la Banque mondiale sur l'éducation, si vous l'avez ça, sur le développement humain.
Mm-hmm.
Si vous prenez depuis 2000 jusqu'en 2010, vous avez la courbe qui est toute droite. Il n'y a pas d'amélioration. Si lui, il considère ça amélioration, mais les conditions de vie. Quand vous payez, par exemple, vous donnez 60 000 francs, vous dites qu'il y a un avenir que nous pouvons espérer. Même si on donnait 100 000 francs aujourd'hui, par rapport au pouvoir d'achat, vous devez tenir compte de cela. Par rapport au pouvoir d'achat, qu'est-ce que l'on peut espérer? Il faut donner un minimum à un enseignant pour faire face à ce qu'il a comme besoin, ou épargner et par moment même investir, pour préparer le devenir de ses enfants.
Néanmoins, il y a quand même des syndicats qui existent et qui continuent à lutter pour améliorer les conditions des enseignants.
Oui, en fait, ils luttent depuis que le Mboudi existe, les syndicalistes luttent, mais en fait, ils sont aussi exposés, il y en a qui subissent des représailles, mais moi, je n'ai pas foi à toutes ces négociations des syndicalistes. Ils ont entamé une grève qu'ils ont elles-mêmes abandonnée.
Donc,
je ne crois pas dans ce genre de négociations. Il faut un peu de volonté politique pour améliorer les conditions de vie des enseignants.
Donc vous êtes quand même, on le sent, pessimiste, mais vous comptez sur la volonté politique pour améliorer. Merci beaucoup Théodore d'avoir participé à cette émission.
Parole aux auditeurs.
Et nous revenons à notre invité, comme je l'ai dit, c'est M. Urbain-Marie Moupi, ancien chef des sous-divisions à l'UPSP. M. Moupi, vous avez suivi nos trois premiers auditeurs, Justin de Béni qui croit en la profession et qui tient, qui espère que demain, il y aura des lendemains meilleurs pour cette profession. Vous avez suivi aussi l'avis de Théodore qui reste pessimiste au regard de la réalité, surtout concernant les conditions de travail, mais aussi Soupi de Kalima, lui qui constate que la qualité de l'enseignement a diminué, il y a une régression dans la qualité de l'enseignement. Dites-nous, M. Moupi, au regard de ces avis des auditeurs, qu'en pensez-vous?
Nous sommes en train de réclamer effectivement, ce sont des réclamations du bâtiment. Mais le temps que tout chercher une solution au problème qui se pose aux enseignants, il faut d'abord remonter aux causes de la situation, de cette crise-là. Nous pensons que dans les années 60, 69-72, il y a eu les premières réformes. Et ces réformes, on a dit, ce sont des réformes, et c'était des réformes de réaction. Le texte du temps colonial avant l'indépendance, on n'avait pas suffisamment d'école secondaire. Alors, lorsque nous avons accédé à l'indépendance, voilà que on a tout simplement ouvert la vanne, on a trouvé des écoles de façon anarchique, partout et surtout à partir des années 70. On a créé des écoles partout, sans tenir compte des moyens de l'État. Et c'est toujours les dirigeants qui sont à la base de cela. Alors, notre enseignement n'est pas planifié, il doit être planifié. Et l'enseignement est devenu un de ses clairs. Comme il n'y a pas de création d'emploi, il n'y a pas de société.
S'il vous plaît, M. Moupi, s'il vous plaît, parce que là, on ne vous entend plus très très bien, la qualité de la liaison téléphonique est en train de se détériorer. Nous sommes en train de vouloir vous appeler sur un autre numéro de téléphone, peut-être que la ligne sera meilleure. En tout temps, bien sûr, je rappelle à tous nos auditeurs qu'aujourd'hui, nous parlons de la profession enseignante. Aujourd'hui, c'est le 5 octobre, journée mondiale des enseignants, une journée pour rendre hommage aux enseignants et enseignantes, bien sûr, qui jouent un rôle essentiel dans l'éducation de qualité à tous les niveaux. Et aussi, vous savez très bien qu'enseigner, c'est pas seulement apprendre, mais aussi ça permet de libérer le potentiel de l'apprenant, lui offrir des nouvelles perspectives, aider l'apprenant à pouvoir réaliser ses rêves. Et nous avons eu déjà des auditeurs qui nous ont exprimé, qui nous ont dit ce qu'ils pensent de la fonction enseignante. Déjà, Justin, Soupi, Théodore, en général, sont revenus sur les conditions de travail qui ne sont pas souvent, qui sont précaires, des salaires qui sont bas, et aussi, pour certains, ils pensent que les lendemains seront meilleurs. Et pour tous nos auditeurs qui veulent participer à cette émission, je rappelle les contacts, le 081-890-6315, le 081-890-6315, ou nous écrire à l'adresse internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs.
On a pu recontacter notre invité, Monsieur Moupi. J'espère que cette fois-là, la qualité de la liaison téléphonique est meilleure. Vous êtes en train de nous expliquer un peu l'évolution de cette fonction au niveau même de l'enseignant, la personne, l'enseignant, et même l'éducation en général. Vous êtes en train de nous expliquer depuis les années 60 actuellement, avec le nombre croissant des écoles et le gouvernement qui n'a pas suivi. Vous étiez en train de nous dire comment ça s'est passé. Nous vous écoutons, Monsieur Moupi.
et je disais que l'enseignement est devenu, le secteur de l'enseignement est devenu un véritable dépotoir qui doit résoudre les problèmes de chômage au Congo. Et c'est bien que n'importe qui peut maintenant entrer dans l'enseignement, parce qu'il y a aussi la pression démographique, on ne sait pas bien qui à temps, parce que si on était parti, bien parti au début dans les années 1950, je pense qu'on devait arriver à contenir la pression actuelle.
Mais actuellement,
alors, aujourd'hui, oui, nous pouvons dire que si trop en bas, mal est prêt. Notre enseignement doit être d'abord planifié. Deuxièmement, notre enseignement doit aussi mettre l'accent sur la formation des enseignants. Il n'est pas accepté n'importe qui pour gérer d'abord les écoles. On ne sait pas. Maintenant, quand une église est créée, automatiquement, elle a droit
à
la, je ne sais pas,
hein. Instaurer l'école.
Deuxièmement, celui qui a fait des sciences politiques, des sciences, je ne sais pas, sociologiques, tout n'importe quel sens à l'université, il atterrit toujours à l'enseignement. Mais pourquoi? Parce que, il y a des écoles, qui se crée, on ne tient pas compte des moyens de l'État.
Oui, mais s'il vous plaît, au regard de la situation actuelle, il y a quand même des réflexions qui sont en cours pour voir comment contenir, et cela grâce aussi avec les partenaires de l'éducation, ils sont assez nombreux, par exemple l'UNESCO, l'UNICEF et d'autres partenaires, la coopération technique belge, ainsi que d'autres coopérations avec des pays étrangers. Donc, pour l'instant, les efforts, on a l'impression qu'il y a des efforts, parce que même si nous cherchons des chiffres, au moins dans l'éducation, on peut avoir des statistiques. Et au regard de tous ces efforts, qu'est-ce que vous proposez d'autre pour que la fonction enseignante soit reluisante, pour donner espoir, par exemple, à Justin, qui y croit encore?
Mais moi, je pense que l'intervention de nos partenaires, ce n'est que provisoire, c'est pour un moment, n'est-ce pas? Il faut trouver d'abord des solutions au niveau de la, du pays, pour ce qui concerne le contrôle, la maîtrise, hein, des écoles. Je ne dirais pas que ce n'est pas des effectifs, mais des écoles.
Les écoles.
Nous ne savons pas, hein, et par en nous, combien on doit créer des classes. On ne sait pas combien de directeurs scolaires il faut créer, combien de, je ne sais pas, des sections qui vont créer et chacun trouve comme il entend.
Donc, il faudrait canaliser, ouais, centraliser les réflexions. Mais si vous restez en ligne, nous allons écouter José qui se trouve à Lubumbashi et Étienne Amagi, et puis nous allons revenir à vous pour à nouveau commenter les avis de nos auditeurs.
Parole aux auditeurs.
Bonjour José.
Bonjour.
Nous vous écoutons José. Que représente pour vous cette profession?
Oui, pour moi, l'enseignement, c'est un métier noble et une vocation. Du côté, quand je parle de vocation, la vocation nécessite aussi de l'amour, de la patience, de la tolérance, de l'abnégation, etc. Maintenant, pour ce métier, les efforts doivent être fournis de tous les côtés. Le gouvernement a déjà fourni aussi les efforts, mais les enseignants aussi doivent fournir les efforts pour savoir si c'est une vocation, il faut avoir l'amour et patienter. Les réclamations, vous savez que le corps enseignant dans la fonction publique constitue aussi un grand nombre d'employés pour l'État congolais. À ce moment-là, les exigences sont en train d'être prises en considération. Mais ces métiers aussi, nous constatons qu'il y a maintenant beaucoup de gens qui sont entrés, qui n'ont rien de vocation en eux. Ils commencent à utiliser beaucoup d'argent, parce que nous avons trouvé hier de ces gens-là, dès que les conditions de paiement sont précaires, mais ils ne sont pas corruptibles. Mais la plupart des gens qui n'ont pas la vocation, ils ont échoué dans leur domaine propre, ils ont intégré l'enseignement pour se rattraper. Ils commencent maintenant à utiliser abusivement l'enseignement au lieu de le prendre comme une vocation, travailler avec amour et tolérance.
Merci José, pour vous faites allusion à cet amour, à cette vocation, la corruption, voir comment lutter contre ce fléau qui s'est introduit dans cette profession. Nous remercions Étienne de Tamagui, bonjour.
Oui, bonjour madame.
Oui, de Mahagui, nous vous écoutons.
Oui, ma préoccupation est celle-ci. J'aimerais intervenir comme moi de ce cerveau de intervenir là. Oui, je sais que la l'enseignement se situe vocation dans notre pays. Pourquoi je dis comme ça? Parce que vous voyez aujourd'hui beaucoup de enseignants sont cette carrière-là, beaucoup se déversent dans la société. Parce qu'on même ici misérable dans l'enseignement.
S'il vous plaît, Étienne, est-ce que vous pouvez un peu vous déplacer un tout petit peu? Parce que là, on ne vous entend pas très bien, c'est assez entrecoupé. Le temps de vous déplacer un tout petit peu pour continuer. Pour vous aussi, l'enseignement, c'est une vocation. Et il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas cette vocation, qui se déversent dans l'enseignement pour une question d'emploi. Parce que dans c'est un secteur qui emploie quand même un grand nombre des fonctionnaires, surtout au niveau du gouvernement. Étienne, nous vous écoutons. J'espère que cette fois-là, la qualité de la liaison s'est améliorée.
Ok. Moi, j'aimerais dire seulement notre politicien qui ne touche pas le sujet vraiment l'enseignement ou n'est pas considéré l'enseignement comme mystérieux de véhicules. Même si cela n'existe pas, des véhicules à vase. Il pense que pour devenir le président ou le ministre, on doit passer par les bases scolaires. Il doit donner la valeur vraiment à cette carrière d'enseignement.
Donc, il faut vraiment donner de l'importance, même sur le plan budgétaire, voir dans quelle mesure accroître le budget même de l'éducation, parce que vous pensez que c'est l'essentiel, tout passe par une éducation pour le développement d'un pays. Merci Étienne de Mahagui d'avoir participé à cette émission. Kindoula, ici à Kinshasa, bonjour.
Bonjour madame, et bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Nous vous écoutons.
Oui madame, j'ai entendu M. Dessessier parler de l'enseignement qui est une vocation. Et cela ne veut pas dire qu'une vocation devrait laisser les gens dans les conditions où ils se trouvent actuellement. C'est une vocation, c'est vrai, parce qu'il n'est pas n'importe qui peut devenir enseignant, mais cela n'exclut pas que les gens et les enseignants puissent avoir de bonnes conditions de vie. Nous sommes en train d'explorer le niveau de l'enseignement dans notre pays qui ne fait que baisser, et nous ne pouvons pas tenir compte du fait que l'enseignant lui-même est dans les conditions de ne pas donner le meilleur de lui-même. On ne doit pas aussi évoquer l'aspect nombre des enseignants. Plus nous avons un taux de démographie et qui augmente, c'est normal qu'il y ait autant d'enfants qui entrent à l'école et que le nombre d'enseignants devait augmenter. Et moi, je dis que c'est un problème de volonté politique. Et que tout devrait aller de la même façon avec l'évolution de la démographie. Et le pays ne manque pas les moyens. Et puis, j'avais entendu quelque chose, je ne sais pas si c'est l'invité du jour, qui dit que c'est un processus et ça devrait aller au fur et à mesure. On ne peut pas résoudre le problème en un jour. J'ai suivi aussi une fois le ministre dire cela. On vient de loin, les salaires d'entraînement, c'est que c'était hier et aujourd'hui c'est différent. Mais quels étaient les salaires des ministres à l'époque du gouvernement Kassaboubou et quels étaient les salaires de l'enseignant? Est-ce que ça avance dans les mêmes proportions? Au contraire, aujourd'hui, les ministres d'aujourd'hui, par rapport aux ministres de Kassaboubou, il est riche. Et pourquoi l'enseignant n'a pas subi la même évolution que l'enseignant de l'époque de Kassaboubou? Il y a un problème de volonté politique, nous sommes égoïstes dans notre pays, et chacun cherche l'intérêt personnel, on ne cherche pas l'intérêt général.
Donc pour vous, tout se résume par une volonté politique forte pour pouvoir améliorer les conditions de vie et de travail de l'enseignant, Merci Kindoula, je rappelle que vous êtes ici à Kinshasa et tous nos auditeurs de Kinshasa, ils nous suivent sur la 103.5 FM, mais aussi ils ont une autre possibilité, c'est de se connecter sur www.radiocapi.net.
Parole aux auditeurs.
Avant de redonner la parole à notre invité, comme je l'ai dit, il s'agit de Monsieur Urbain Marie Moupi, l'ancien chef de subdivision à l'EPSP, mais aussi secrétaire général honoraire à la recherche scientifique. Il a été longtemps professeur dans les collèges, dans les lycées, donc il a évolué dans cette profession jusqu'à aujourd'hui, il se trouve en retraite. Nous allons prendre le professeur Gabembo, qui travaille actuellement à l'UNESCO. L'UNESCO, comme vous le savez, c'est une agence des Nations Unies qui soutient l'éducation. Bonjour, professeur. Professeur, bonjour. Nous avons des problèmes avec la ligne téléphonique du professeur Gabembo. Avec lui, bien sûr, nous allons parler de ce que fait l'UNESCO pour soutenir l'éducation en RDC, mais aussi parler du thème, parce que chaque année que nous célébrons cette journée mondiale de l'éducation, il y a un thème, et le thème aujourd'hui de cette journée, il est question de pouvoir, on parle plus du genre dans l'enseignement, comment aider les femmes à être mieux, de participer davantage à être enseignantes. Donc le thème est les enseignants pour l'égalité des genres. Voilà le thème de cette année. Le professeur Gabembo, nous espérons que cette fois-là il est en ligne. Bonjour professeur.
Bonjour madame.
Nous avons eu des petites difficultés, mais vous êtes avec nous, vous faites partie de l'UNESCO. L'UNESCO bien sûr qui est l'agence des Nations Unies qui appuie le gouvernement congolais dans le secteur, plusieurs secteurs, notamment l'éducation. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des enseignants. Le thème, c'est les enseignants pour l'égalité du genre. Effectivement, il y a eu des études qui ont été menées où il est démontré qu'il n'y a pas suffisamment de femmes dans ce secteur. Après les études menées, pourquoi vous êtes arrivé à des conclusions? Pourquoi il n'y a pas assez de femmes enseignantes?
Bien, merci beaucoup madame. En fait, les raisons sont multiples. Si on devait remonter à la source, on se rendra compte au départ que dans la formation des enseignants et des enseignantes, il y a plus d'hommes que de garçons. Plus d'hommes donc les filles, pardon. Mm-hmm. Si vous regardez les statistiques éducatives, elles vous montrent que la parité des sexes au niveau de l'école n'est pas encore atteinte. On est à une disproportion en faveur du garçon et donc en défaveur de la fille. Ça signifie donc déjà au niveau de la formation, il y a plus d'hommes que de femmes. Mmh. Davantage au niveau secondaire qu'au niveau primaire, bien entendu. Mmh. Maintenant, quand on remonte au niveau des enseignants, on s'aperçoit effectivement que là aussi, c'est que l'expérience s'est introduite. Il y a plus d'enseignants que d'enseignantes.
Mais avant de, si vous voulez, et pourquoi vous pensez que l'apport de l'enseignante serait un atout pour l'éducation?
Donc, c'est d'abord une question de justice. Et dans la mesure où précisément les objectifs de l'éducation pour tous, tels qu'ils avaient été définis en 2000 à Dakar, prônent la parité des sexes, il est également important que justement on arrive à avoir autant d'hommes que des garçons, autant d'hommes que des femmes au niveau de l'enseignement. C'est une question de justice.
Mmh. Donc c'est une question des prédispositions de la femme dans l'éducation des enfants.
Non, je ne pense pas personnellement que la femme soit mieux dotée que l'homme à faire le métier d'enseignant. Même si la coutume, l'habitude, les traditions nous enseignent que c'est davantage une femme qui s'occupe de l'éducation des enfants qu'un homme. Mm-hmm. Mais on se rend compte au point de vue des dispositions et des compétences dont disposent l'un et l'autre sexe. On se rend compte que du point de vue de l'éducation, il n'y a pas de différence du tout. Donc un homme et une femme ont les mêmes compétences, les mêmes capacités et peuvent donc être autant enseignants qu'enseignants, ça ce sera pas de problème.
Et c'est vrai, au-delà de la journée, nous avons eu déjà plusieurs auditeurs qui sont revenus sur cette profession assez noble, cette vocation, mais surtout sur les conditions de travail et l'UNESCO, au regard de la situation actuelle de l'enseignant, quelles sont ses analyses pour pouvoir appuyer ce secteur-là et aider de changer un peu la situation.
L'UNESCO a mis en œuvre une initiative qu'on appelle en français TIFSA, mais qui signifie Initiative de formation des enseignants en Afrique subsaharienne. Et la République démocratique du Congo a été élue à cette initiative-là. En ce qui concerne notre bureau en particulier, cette année, nous allons bientôt commencer une étude diagnostique de la situation de l'enseignant. L'UNESCO a élaboré un ensemble d'outils méthodologiques qui permet précisément d'analyser la situation et de proposer des remèdes. Nous allons donc commencer cette étude bientôt, sûrement à la fin de ce mois, pour arriver à analyser la situation de l'enseignant et le diagnostic devrait aboutir à l'élaboration d'une politique de formation des enseignants. L'analyse ne concerne pas que la situation de formation, elle prend également en compte toute la condition de l'enseignant, la situation salariale, tout ce qui entoure l'enseignant pour faire de lui véritablement un producteur de connaissances, un transmetteur de connaissances. Donc, l'apport de l'UNESCO par rapport à la formation des enseignants, par rapport à la situation d'enseignants, se situe précisément au cœur de cette initiative que nous appelons Initiative pour la formation des enseignants en Afrique subsaharienne.
Professeur, restez d'abord en ligne. Nous allons prendre Mathieu qui est aussi en ligne et puis nous allons revenir à vous pour que vous nous fassiez une petite conclusion et puis nous reviendrons à notre invité bien sûr qui est Monsieur Urbain Marie Moupi qui va aussi réagir face à ce que vous venez de nous dire. Mathieu, bonjour.
Oui, bonjour Marie-Chantal. Bonjour. Votre invité de la radio Capi, bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent en ce moment.
Vous êtes à Lubumbashi, nous vous écoutons.
Oui, madame Marie Chantal, aujourd'hui c'est la journée internationale de l'enseignement. Je suis en train, je suis en train de me signer par rapport à l'enseignement au sein de notre pays qui est la République démocratique du Congo. Où nous avions constaté que le niveau de l'enseignement est trop bas. Et si le niveau de l'enseignement est trop bas, la responsabilité est partagée. C'est différent par rapport aux autres pays. Et nous venons de constater que la grande partie de la responsabilité incombe aux autorités de ces pays.
Donc, pour vous,
connaissant bien que le niveau de l'enseignement est trop bas, et connaissant bien que les enseignants sont moins rémunérés, ils prennent leurs enfants et ils les envoient à l'étranger. Pourquoi? Puisque là, ils constatent que là, l'éducation est au top, tandis que dans leur propre pays, l'éducation est en bas. Tout ça, c'est suite au salaire. Si vous prenez les salaires d'un ministre, les salaires d'un député, les salaires d'un quelqu'un qui est dans les gouvernements, par rapport au salaire d'un enseignant, vous constaterez que c'est vraiment dérisoire et c'est décourageant. Bien sûr que l'enseignement est un métier noble, est une vocation, mais il faudra aussi qu'il y ait une confiance dans l'amour du parti, l'amour de nos autorités pour arriver à soutenir, à encourager ce métier qui est noble, à encourager cette vocation pour que l'éducation de nos enfants soit au top. Actuellement, les enfants qui subissent dans ce pays, ce sont les enfants et nous qui sommes les pauvres, et les enfants des riches qui sont à la fin des aux États-Unis d'Amérique, ça est là. Donc que nos autorités congolaises prennent confiance à bien vouloir aider la patrie. Bientôt là, ce sont les élections. Comment est-ce qu'on va élire quelqu'un qui pense aller investir ailleurs, puisqu'envoyer ses enfants ailleurs, c'est aller investir ailleurs, pendant que nous avons tous les atouts à élever notre niveau d'enseignement au sein de notre pays.
Merci.
Voilà moi ma petite intervention par rapport à ça.
Merci Mathieu de Lubumbashi.
Parole aux auditeurs.
Nous revenons au professeur Gabembo de l'UNESCO. Vous avez suivi Mathieu. Il s'indigne aussi de la situation assez difficile que traversent les enseignants. C'est vrai que, à part ce problème de salaire, il y a aussi d'autres difficultés. Notamment, il y a des enseignants qui sont vieillissants, un problème de remplacement. Et vous focalisez dans la formation de l'enseignant et vous prévoyez ainsi former, aider le gouvernement congolais à former combien d'enseignants dans les années à venir.
Je veux d'abord préciser, madame, c'est d'adapter les dernières statistiques éducatives à notre disposition, celles de l'année dernière, des ratios élèves maîtres et de 16.
De 16, voilà.
Ouais, donc, ce qui n'est pas, à mon avis, très, très énorme.
Mm-hmm.
Mais cependant, on doit faire attention, ça, c'est vraiment la moyenne nationale. Et cette moyenne nationale cache peut-être mal les disparités qui existent entre les provinces et les milieux. Lorsque vous regardez un milieu urbain en particulier, vous allez trouver que ces ratios, généralement, sont élevés, plus élevés qu'un milieu rural. Donc ça, c'est une question que je peux apporter. Une deuxième précision, c'est en ce qui concerne la qualité de l'éducation. L'UNESCO se préoccupe bien entendu de la qualité de l'éducation. Et nous pensons que la qualité de l'éducation passe essentiellement, sinon en grande partie, à travers la formation, la qualité de la formation du maître. Si on a des maîtres qui sont bien formés, on peut espérer qu'ils dispensent une éducation de qualité. La formation du maître suppose qu'au départ, on ait déblayé le terrain. Que l'on fasse exactement quel soit le boulot d'étranglement qui empêche que l'enseignant soit correctement formé. Et c'est à cette étape que nous allons nous livrer à travers cette initiative dont j'ai parlé.
Mm-hmm.
Bien entendu, on peut partir de ce qui suffit de présupposer. L'on sait en particulier que la situation de l'enseignant elle n'est pas très brillante. Mais on voudrait faire une étude véritablement scientifique qui arrive à démontrer les causes réelles et profondes. Ce n'est qu'à l'issue du résultat de cette étude qu'on pourrait alors proposer des alternatives pour former des enseignants de manière compétente et pour qu'à leur tour, ils arrivent à dispenser une éducation de qualité.
Okay.
Ça, c'est le premier problème. Le second problème, vous l'avez soulevé, c'est le vieillissement du personnel enseignant. Il est évident que lorsqu'on regarde les statistiques, on se rend compte que le personnel enseignant est vieillissant, qui devient à la retraite. On s'aperçoit également qu'il y a un nombre important d'enseignants qui ne sont pas qualifiés. J'ai entendu un auditeur qui a parlé de ça. Ce n'est pas n'importe qui finit l'université qui devient automatiquement enseignant. Il faut avoir été formé à la pédagogie, à la didactique pour devenir un bon enseignant. Et vous comprenez que si les écoles de formation des enseignants ne sont pas suffisamment fréquentées par des candidats, puisque au bout du compte, ils s'aperçoivent que la carrière d'enseignant n'est pas une carrière qui est payante, c'est un carrière qui est vicieux. On n'a pas beaucoup de gens qui prennent cette filière pour la formation, au bout du compte, on n'a pas beaucoup d'enseignants qualifiés qui vont dans l'enseignement. Ceux qui vont, ce sont des gens qui n'ont pas pu trouver mieux ailleurs et qui ne sont donc pas qualifiés, et donc le cercle se referme de cette manière-là. Et donc, nous, à l'UNESCO, nous pensons qu'il faut commencer par une étude diagnostique qui révèle les véritables causes et qui, à la fin, propose des solutions auxquelles on pourrait bien entendu s'appeler.
Mmh. Merci beaucoup, professeur, d'avoir participé à cette émission, de nous avoir éclairé, expliqué quelle est la vision de l'UNESCO concernant la fonction enseignante, cette profession. Nous redonnons la parole à notre invité, professeur, je peux vous appeler professeur Monti parce que vous l'avez été. Dites-nous, comment vous réagissez face à tous ces projets qui sont en cours pour améliorer en fait les conditions de travail, de vie, et les conditions même intrinsèques de l'enseignant.
Merci. Je pense que ce n'est pas mal, je pense que c'est des scientifiques et que c'est très bien. Mais moi, je reviens à l'aspect social. Je pense qu'on ne peut pas trouver la solution au problème social de l'enseignant tant au niveau de la quantité ou nombre d'écoles, nombre de classes, nombre de sections. Hein, on ne peut pas aller exercer une pression là-dessus. Je sais qu'il y a la pression démocratique d'une façon générale. Mais on ne peut pas résoudre ces problèmes seulement avec la volonté politique. Mais la volonté politique doit avoir des moyens. Et ces moyens, nous savons très bien que l'enseignement relève du secteur tertiaire. C'est un secteur de développement des services.
Mmh.
Et c'est un secteur digestivore. On ne peut pas trouver de solution. Si vous voulez avoir une qualité, plutôt un enseignement de qualité, vous devez d'abord avoir une économie forte. Or, il se trouve que le secteur primaire, le secteur secondaire, qui sont des piliers d'économie, un pays, le développement d'un pays, ce secteur-là ne fonctionne pas. Depuis 1960, jusqu'à ce jour, le Congolais n'a pas créé une industrie
pour une société. Aucun gouvernement n'a créé de société dans ce secteur. Or, les jeunes du monde qui terminent les études, où sont les droits? Directement à l'enseignement. Or, l'enseignement ne produit pas l'argent pour payer. Ce n'est pas possible. Donc, moi, j'estime que on doit d'abord revoir la gouvernance du pays. On doit créer des entreprises de sorte que n'importe qui ne puisse pas aller atterrir là.
L'enseignement, donc tout le monde.
Si nous voulons avoir un enseignement de qualité, une école de santé de qualité, ça dépend toujours des deux secteurs de développement, le secteur primaire et le secteur secondaire. L'UNESCO très bien est en train de nous faire des études. Mais ces études-là, pour être efficaces, pour que les résultats ou les conclusions soient pratiques, il faut avoir de l'argent, il faut avoir des moyens économiques. On peut nous indiquer des méthodes, on peut former les gens. Effectivement, la formation aussi, c'est un grand problème pour notre secteur de l'enseignement, parce qu'ils n'ont pas une école qui forme vraiment des enseignants comme tels. Les sections pédagogiques ont échoué. Il faut le savoir. On forme pour permettre aux enfants qui doivent aller continuer les études, mais ce n'est pas vraiment pour enseigner. Allez voir ce que allez voir le niveau
donc, à votre avis, il faudrait revoir même le programme même dans la formation de l'enseignant.
Oui, mais c'est ça. On doit revoir le programme de formation. On ne peut plus parler en termes de humanité pédagogique. Nous formons des gens dans les écoles normales. Partout ailleurs, c'est comme cela. On ne se forme pas dans les humanités générales. Formation pédagogique générale. On ne se forme pas comme ça.
Oui,
du côté social. C'est vrai, le gouvernement fait beaucoup d'efforts en augmentant. Mais tant que la source qui alimente des écoles, c'est-à-dire en démographie, si ce n'est pas encore arrêté, je vous donne un cas. Je donne quelques références. Regardez dans un même rayon combien il y a d'écoles pédagogiques, combien il y a de sections scientifiques dans un même rayon. Alors que là-bas, comme je dis de mon moyen, on aurait pu avoir une ou deux écoles de sections de chimie ou bien pédagogiques. Et comme ça, nous avons réduit le nombre d'effectifs. N'est-ce pas? Mais on ne peut pas considérer l'enseignement supérieur, plutôt l'enseignement primaire et secondaire, comme le lieu où l'on doit résoudre le problème de chômage. Non.
Merci.
On ne peut pas, même si l'UNESCO est en train de faire des études, mais pas que le Congolais, le pays lui-même, n'a pas une économie, en tout cas.
Ce sera difficile de pouvoir relever
le niveau économique, socio-économique de
l'enseignement.
Oui. C'est impossible.
Oui, vous restez en ligne, le temps d'écouter aussi Maïché qui se trouve à Beni, Mbouya à Lubumbashi, et je rappelle aux auditeurs nos contacts, le 081-890-6315, 081-890-6315, ou nous écrire à l'adresse internet pa@radiocapi.net. Et vous savez, chaque mercredi, nous avons deux parties d'émission. Nous allons poursuivre cette émission après notre bulletin d'information qui va intervenir dans 8 minutes. Nous aurons encore 15 minutes d'échange sur la question de l'enseignant.
Parole aux auditeurs.
Bonjour Maïché.
Oui, bonjour maman Marie-Chantal. Moi, je voulais poser une question. Est-ce que parmi tous ces ministres qui se succèdent dans ce pays, tous ces gouvernements qui passent et repassent, aucun de ces gouvernements n'a jamais corriger le secteur de l'éducation. Je me suis toujours posé la question, est-ce que ce sont les moyens qui nous manquent dans ce pays vraiment? Depuis même l'époque de Mobutu, ce sont toujours des enseignants qui étaient très mal enseignés, ce sont toujours des malheureux. Je me suis toujours demandé, est-ce que ce sont les moyens qui manquent dans ce pays vraiment?
Vous posez des questions, est-ce que ce sont des moyens qui manquent? Notre invité même a expliqué que tout est lié, il faut avoir une économie forte pour permettre aux enseignants d'avoir des bonnes conditions, mais n'empêche qu'il y a quand même des efforts qui devront être faits, c'est ce que les syndicalistes sont en train de se battre pour cela, mais vous estimez que c'est pas suffisant et vous posez des questions pour savoir pourquoi cette situation perdure. Merci Maïté d'avoir participé, d'avoir exprimé ce que vous ressentez concernant cette profession qui est noble. Nous allons écouter Mbouya Lubumbashi. Bonjour Mbouya. Mbouya, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Moi je voudrais juste parler, après la question de l'enseignant, il faut aussi voir l'enseignant d'abord lui-même. Nous nous sommes rendus compte ici à Lubumbashi, à la fois des assemblées des parents, l'enseignant lui-même qui, depuis ce temps, on considérait que ce fait était noble, on a pris le fait de formation pour qu'il y ait un caractère obligatoire avec ça. On se rend compte que l'enseignant lui-même, on a du mal à le respecter. Et d'autre part, il y a aussi le phénomène école privée. École publique, un phénomène qui n'est pas jusque-là bien maîtrisé, qui est à la place du gouvernement. Et nous savons depuis toujours que l'enseignant a été toujours considéré comme la cinquième roue. Mais, étant donné que c'est un problème, il y a aussi un problème économique qui est en train de jouer. Mm-hmm. On doit d'abord commencer par quelque part. Mm-hmm. Qu'on puisse quand même valoriser la personne de l'enseignant.
Mais à votre avis, qui est la personne qui doit faire un effort pour faire respecter l'enseignant?
Je pense qu'il faut que l'enseignant d'abord lui-même commence aussi par se valoriser. Pas juste à se valoriser juste les faits de cette prévention ponctuelle, où à ce moment-là, ce n'était pas pris en compte.
Donc l'enseignant lui-même, et vous avez autre chose à ajouter, Mbouya?
Oui, bon. Est-ce que dans notre pays, il y a vraiment un suivi des programmes et qui donne réellement cours à nos enfants? Ce sont là mes deux questions que je pose à l'instant.
Malheureusement, nous n'avons pas un membre du gouvernement avec nous pour savoir qui élabore les programmes, mais quand même, nous avons comme invité un ancien qui a travaillé dans ce secteur. Il va nous expliquer. J'espère que c'est le même système qui se poursuit jusqu'à présent. Il a suivi vos questions et je suis branché sur Radio Capi pour avoir des réponses à vos préoccupations. Tabash, vous êtes à Bukavu, bonjour. Là, nous avons perdu, je pense à d'être Tabacha, nous l'avons perdu. Nous allons redonner la parole à notre invité pour répondre aux deux préoccupations de notre auditeur Mbouya de Lubumbashi. Monsieur Mouti, vous avez suivi ces deux questions. Actuellement, comment s'élabore normalement un programme dans l'enseignement?
Je ne sais pas aujourd'hui, là, vous avez toutes les commissions. Il y avait des comités de réforme composés des parents, composés des spécialistes des enseignants eux-mêmes, composés des experts de l'extérieur, et sur base de situation qui se pose à l'intérieur du système éducatif. Aujourd'hui, je ne sais pas comment ça se fait, je suis pas la situation, mais les programmes. D'abord, avant de parler des programmes, on devrait d'abord parler de écoles comme telles, des écoles de formation. Mm-hmm. Je ne sais pas si la direction de l'administration scolaire existe encore et la direction des réformes ou des services pédagogiques, si ces services-là existent. Donc, on ne peut pas faire une réforme, vous l'appelez les experts. Les extérieurs, ils viennent faire des programmes, non. Je pense que c'est à partir de la situation qui prévaut à l'intérieur, que ce service que nous avons cité, l'administration scolaire, qui s'occupe il y a la direction de la planification, à la loi, comme ça, administration scolaire, planification et les services pédagogiques.
Oui, monsieur Moussi, nous allons vous garder en ligne parce que bientôt va intervenir notre bulletin d'information que je vous invite d'ailleurs à suivre. J'invite également Kabacha à rester en ligne pour le bulletin d'information. Après, nous aurons une seconde partie des paroles aux auditeurs.
À la veille de l'année internationale de l'énergie durable, à l'heure où les Nations Unies célèbrent l'année internationale de la forêt, la République démocratique du Congo, riche de ses forêts et ses réserves en eau, organise, avec le soutien des Nations Unies, les 10 et 11 octobre à Kinshasa, un forum de haut niveau sur le climat et la forêt. L'impact du changement climatique sur le développement de la RDC et la mise en place d'un réseau d'échanges international seront au cœur des travaux de ce forum. Les 10 et 11 octobre 2011, le forum de Kinshasa. Protéger notre forêt pour construire un avenir durable.
Et nous poursuivons parole aux auditeurs, la fonction enseignante, cette profession. Aujourd'hui, c'est le 5 octobre et chaque 5 octobre, nous célébrons la journée mondiale des enseignants. Et parole aux auditeurs, aujourd'hui on parle. Nous avons invité pour vous Monsieur Urbain Marie Moupi, qui est ancien chef de sous-division à l'EPSP. C'est notre invité, bien sûr. Et nous avons eu plusieurs auditeurs qui ont donné leur avis. La question centre de notre émission, que représente pour vous la fonction enseignante. Monsieur Moupi, nous écoutons Kabacha Arthur et après nous allons revenir à vous pour une conclusion de cette émission. Kabacha, bonjour.
Oui, bonjour madame, bonjour à Diopathie, bonjour à tous les auditeurs.
Nous vous avons fait attendre un peu longtemps, mais vous êtes là avec nous. De bout à vous, qu'est-ce que vous pensez de cette fonction, de cette profession?
Moi, j'ai toujours pensé que la fonction de l'enseignement est la fonction la plus noble de l'humanité. Car, vous en doutez madame, l'enseignement est la continuité de l'éducation de base reçue en première instance par nos mères. Pas d'humanité sans enseignement. Chacun a été formé dans l'enseignement d'une manière ou d'une autre, car il y a l'enseignement primaire, secondaire, supérieur, universitaire et même l'enseignement professionnel. Toutefois, je me pose toujours la question selon laquelle notre enseignement est-il toujours au diapason de nos problèmes. Au départ de tout projet, il doit y en avoir d'abord un problème, à la base un problème à résoudre. L'enseignement étant une grande réponse aux problèmes nationaux, devait être adapté aux défis régionaux. Et moi, je suis l'un de ceux qui pensent que notre enseignement n'est pas adapté. C'est du copier-coller, c'est du mimétisme, du saupoudrage. Donc, on remplit seulement pour remplir parce qu'il faut le faire. Les parents se trompent et se disent nous envoyons nos enfants à l'école. Et les enseignants disent nous enseignons, mais ils n'enseignent absolument rien et l'école n'existe presque pas. Voilà pourquoi nous ne pouvons jamais être développés. Le chômage sera toujours notre lot quotidien. Rien n'est planifié par rapport aux problèmes à résoudre. Et c'est la raison pour laquelle l'enseignement est toujours négligé par l'État congolais. Et la jeunesse est sacrifiée par même les mêmes dirigeants. Au Congo, il n'est plus noble. L'enseignement n'est plus noble. Mais il est devenu un peu perdu, un tout noir pour la jeunesse et même pour les enseignants.
Donc, à votre avis, il faudrait des grandes réformes de l'enseignement.
Une grande réforme par rapport aux problèmes même dans les pays. Et non pas, je sais, l'enseignement du copier-coller, du mimétisme et du saupoudrage. Non, non, non.
Merci Kabacha. Et à votre avis, qui doit participer à ces grandes idées, à ces grandes réflexions pour reformer notre enseignement?
Ok, merci maman.
Je pense qu'on a un problème. Merci, Kabacha, d'avoir participé à cette émission. Pour vous, il faut d'abord récolter les données, savoir quels sont les problèmes de la société et adapter l'enseignement au regard des besoins de la société. Nous vous remercions. Arthur, vous êtes à Colombie, bonjour. Bonjour, Arthur.
Bonjour.
Oui, Arthur, nous vous écoutons. Vous serez le dernier auditeur de cette émission.
Ok, merci madame pour la parole.
Oui.
Vous êtes en train de suivre l'émission à partir de votre poste récepteur. Vous pouvez carrément l'éteindre parce que sinon, le temps de pouvoir répondre, écouter, il y aura toujours un vide entre mes questions et vos réponses et c'est un vide qui est souvent désagréable à l'antenne. Arthur, nous vous écoutons. Que pensez-vous de cette profession?
Merci. Je voulais aussi évoquer dans le sujet qui est précédent. Cependant, le métier de la clinique est un métier noble. Mais moi, je veux revenir sur le moral de l'enseignant lui-même. Dernièrement, on a présenté ici un enseignant qui a un grossier venu et son élève. On apprend facilement à l'enseignant qui enseigne son élève. L'enseignant qui couche avec son élève, c'est vraiment, on ne sait pas où on va. Et je voudrais qu'on explique sur le moral de l'enseignant.
Parce
qu'un enseignant, nous savons tous, nous sommes pas le vent de l'école, un enseignant c'est le modèle à suivre. Un enseignant, quand on rentrait, si l'enseignant a dit 1 plus 1 égale 1, à la maison, personne ne peut vous contredire. Non, madame a dit, non, monsieur avait dit qu'un enseignant, donc c'était vraiment un modèle. Mais quand on apprend qu'un enseignant fait ça, c'est vraiment le monde à l'envers. Il les exhorte donc à beaucoup plus d'humanisme. Et on voit qu'ils sont quand même des gens dignes dans leur comportement, dans tout ce qu'ils font.
Merci, l'enseignant, le modèle. La réalisation de Cécile, Betty qui a la réalisation de Cécile, qui est le tout dernier auditeur. Donc, monsieur Moupi, gardez l'écoute. Papy, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour Marie-Chantal, bonjour aux auditeurs de la radio.
Oui, en une minute, dites-nous ce que vous pensez de l'enseignant.
Oui, madame Chantal, moi aussi je suis parmi les enseignants, mais je crois que le grand problème de l'enseignement, c'est d'abord, quand on parle d'éducation, puisque c'est un sujet, bon, l'éducation c'est d'abord par rapport au cours de l'éducation civique et morale, qui mérite encore d'être réformé. Et aussi, l'enseignement d'aujourd'hui mérite encore d'être restructuré de nouveau, puisque vous allez voir un chef d'établissement. Il va engager, par exemple, son frère pour des intérêts familiaux plutôt. Bon, vous allez voir également, ce n'est pas le gouvernement qui engage les enseignants, mais plutôt les églises, les coordinations. Donc, l'enseignement mérite d'être pris à charge à totalité par l'État. Vous allez voir que l'État n'a pas une mainmise directe sur l'enseignement.
Merci beaucoup, papy. Nous nous excusons de pouvoir vous interrompre. Nous n'avons plus assez de temps pour vous également. Vous pensez qu'il faudrait reformer tout le système de l'enseignement. Nous vous remercions. Nous redonnons la parole à notre invité. Il s'agit de Monsieur Urbain Marie Moupi. Vous avez suivi notre dernière série d'auditeurs. Dites-nous, en conclusion, qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette fonction, de cette profession, bien sûr au regard du développement qu'attend la RDC.
Ici, nous avons fait certaines études sur la prise en charge des enseignants. Nous avons pensé, on est passé par cette analyse ici. Nous pensons que pour arriver à une solution durable, parce que juste là, les augmentations constituent des solutions ponctuelles. Mais nous devions, d'abord, contenir, maîtriser par une réforme énergique nombre d'écoles et de sections, en passant par la planification, la répartition géographique. Deuxième chose, nous devions, sur le plan social, revenir au système d'enseignement basé sur, si on veut améliorer la condition des enseignants, on devrait revenir sur le système ou bien la politique de méritocratie. C'est-à-dire, l'enseignant doit mériter le salaire qu'il doit par le travail qu'il fait. C'est pourquoi il y a eu toujours des augmentations sur la protection Hein, quand on cote un enseignant qui obtient, par exemple, bien, il a 6% d'augmentation sur son salaire. Très bien, il a peut-être, je ne sais pas plus que 8%, je ne sais plus. Et comme ça, chaque année, hein, il voit son salaire augmenter automatiquement. Sauf que dans le cas des évaluations, c'est la monnaie, hein, l'État peut intervenir pour augmenter la base. Ensuite, nous pensons que pour aider l'État à faire face à ces problèmes, avec son budget, nous pensons que c'est impossible parce que l'État, notre État n'a pas de société, n'a pas d'entreprise. La France n'a pas de société. Le secteur primaire et secondaire n'est pas veilleuse, notre économie n'est pas forte. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous devons diversifier les sources de financement de l'enseignement ou de la rémunération des enseignants. Je dis ici d'abord le budget de l'État, c'est vrai, et puis il faudrait aussi affecter ce que l'on a pu avoir comme résultat de l'allègement de la dette, n'est-ce pas? Et vraiment, il a affecté une bonne partie là-dessus, le manque à gagner là, hein, il faut le mettre de ce côté-là. Il faut maintenant rationaliser la gestion des recettes des activités de financement. Nous avions aussi un service qui est Sémaphore, qui vendait des livres et tout ce qui. Ce service-là a été récupéré par le budget ou bien par le service des finances.
Voilà, merci beaucoup. C'est autant de propositions que vous faites pour pouvoir revaloriser cette fonction, voir dans quelle mesure améliorer les conditions de travail et de vie des enseignants. Nous sommes arrivés ainsi à la fin de cette émission. Nous vous remercions d'avoir participé tout au long de cette émission. Je rappelle que vous êtes secrétaire général honoraire à la recherche scientifique, ancien PROVED, mais aussi vous avez été professeur dans plusieurs lycées et collèges ici en RDC. Nous disons également merci à tous les auditeurs, ainsi qu'à Betty Longoli, Titine Poutou, Nicole Ngata et Guy Mandangou qui ont réalisé cette émission. Nous allons nous retrouver demain pour un nouveau numéro de Parole aux auditeurs et nous allons parler des postes parce que chaque 9 octobre, c'est la journée mondiale des postes et nous nous pencherons sur l'état de lieu que vous faites de la poste, mais surtout des services que la poste vous a rendu ou vous rend actuellement. Vous pouvez réagir dès à présent, nous écrivons à l'adresse internet pa@radiocatif.net. À la prochaine.